Qu'est-ce qui est une invitation au voyage ?
Avant, qui est une invitation au voyage en Italie. Et pour cette escale italienne, on a choisi trois auteurs, Gramsci, Pasolini et Nebu, parce qu'ils étaient porteurs d'une idée. Et cette idée concerne à la fois la liberté et l'affranchissement. Pour raconter la vie de cette idée, son développement sur un siècle, on a convoqué donc Gramsci et les lettres qu'il adresse à ses enfants, puisque c'est un geste extrêmement naïf. Puis Pasolini, des poèmes de jeunesse, 54 et 56, les cendres de Gramsci et les pleurs de l'excavatrice, puisque c'est l'endroit exact où il négocie avec son héritage italien et ses références culturelles. Puis Antonio Negri, qui trace une voie vers l'avenir, enfin, qui ouvre, qui est un auteur, un philosophe contemporain, encore en activité.
Et comment vous êtes arrivé à Negri, justement ? Parce que,
oui,
Pasolini, même si vous n'avez pas utilisé les textes de théâtre, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup à faire avec le théâtre. Pasolini, Gramsci, moi je lis une filiation simple, qui, que vous écrivez d'ailleurs, puisque... Mais Negri, c'est un philosophe
contemporain qui est devenu en fait le philosophe de référence pour, entre autres, l'Amérique du Sud, les Turcs, les Chinois.
Et c'était quoi la nécessité de mettre de la philosophie sur le plateau ?
Ah oui. En fait, j'étais étonnée pendant de nombreuses années. J'ai travaillé comme assistante metteur en scène et collaboratrice et étonnée par le fait que bien des philosophes circulaient sous la table. Et pourquoi pas les mettre sur scène, en tant que tel ? Pourquoi cacher ce qui permet d'étayer un propos concernant le théâtre contemporain ? Pourquoi pas l'avouer et le mettre en scène, et donner à entendre en tant que tel ? De même que si on utilise de la musique au théâtre, pourquoi on cache le musicien, la source ? De même que la présence de l'image. Enfin, je tenais absolument à ce que tout soit visible et lisible, et qu'on voit les gens travailler.
De la même façon que quand on fait du café, on le fait vraiment et on le sent vraiment.
Oui.
Il y avait un souci de concrétude.
Oui, absolument. Donc, dans la fable d'origine qu'on s'est racontée pour commencer à travailler, on s'est demandé ce qu'étaient les gestes du quotidien qui nous permettaient à tous d'être debout devant les autres. Donc, je ne sais pas, on se lève, on fait son café, finalement on prend son bain, et on est debout devant les autres. On est capable de rencontrer les autres. Et c'est la fiction la plus basique, originelle, qui nous a permis de construire l'écriture scénique.
Comment ça s'est construit, justement ? Parce qu'on sent qu'il y a tout un parcours sur le plateau. Enfin...
Oui, il y avait l'idée comme ça, extrêmement naïve, de... En fait, on s'est posé une première question qui était: quel est le moment où tout le monde réfléchit ? Quel est le moment où on réfléchit ? Et c'est peut-être le seul moment où tout le monde réfléchit, c'est juste avant de prendre son bain ou sa douche le matin, ou au moment de prendre le café, si on en a. Et ce petit moment, on voulait l'étirer sur 90 minutes, en fait, le vrai temps d'une réflexion. Et dans ces 90 minutes, on voulait développer l'histoire de cette idée, c'est-à-dire l'idée de la possibilité d'un affranchissement, de liberté, qui s'est développé sur un siècle, mais de le ramasser sur un temps court de représentation, qui est 90 minutes.
Et l'origine de cette idée, c'est Gramsci pour vous ?
Gramsci est à l'origine dans le sens où il a fondé le Parti communiste en Italie, a été emmené en prison très vite, et la prison, lui, a permis d'écrire, paradoxalement, 2848 pages. De théoriser comme ça son geste, son désir d'affranchissement. Plus tard, quand l'idée se développe et la possibilité d'affranchissement se développe, ça se traduit pour nous, chez Pasolini, à travers ses poèmes, son écriture cinématographique, de manière moins douloureuse, pour arriver chez Antonio Negri de manière quand même douloureuse, puisqu'il s'agit d'une biographie tragique, puisqu'il a été accusé à tort pendant de nombreuses années, donc fait encore de la prison, est encore en prison. N'empêche qu'au bout du compte, 50 ou 60 ans après, il y a quelqu'un d'extrêmement résistant et extrêmement heureux, porteur de cette idée.
Plus que douleur, c'est combat, enfin, qu'on retrouve dans les images aussi.
Il y a du combat dans les images, oui.
Avec les images d'archives de Gênes, des événements de Gênes.
Oui. Mais plus que combat, c'est l'endroit, probablement l'endroit où on est le plus faible, c'est l'endroit où on est le plus fort. C'est ce qu'on voulait raconter. C'est aussi pour ça que l'acteur est nu, qu'il n'y a pas. Le dispositif scénique est très simple et lié à une nécessité première.
Et on retrouve. Donc sur le plateau, comme vous nous l'avez dit, on voit trois individus, chacun au travail.
Trois protagonistes qui... Alors le souci dans la construction même de la mise en scène, c'était de considérer chacun des espaces, je parle de l'espace sonore, de l'image et de la prise de parole de l'acteur, comme étant valable et d'une grande valeur, chacun des espaces.
Vous voulez dire qu'il n'y ait pas de hiérarchie?
Il n'y a aucune hiérarchie, non, aucune hiérarchie à l'œuvre dans le processus. Et considérer une lettre envoyée à un enfant comme une image ou l'espace sonore de la même valeur que la prise de parole de l'acteur devant le public.
Donc, donner à voir. Et comment ils travaillent entre eux? Est-ce que...
En fait, on a fait un travail individuel. C'est-à-dire que j'ai cherché à ménager un maximum de liberté pour chacun des espaces. Pour l'image, j'ai demandé au vidéaste de partir en Italie seul, avec la partition, c'est-à-dire avec le montage prêt, et d'aller prendre des images selon son désir et avec son œil d'artiste. De même qu'avec le musicien, je lui ai demandé de collecter des disques, des bruits, ce qu'il aime, par rapport à la partition.
Qui était en résonance avec son rapport à la partition.
Avec ses propres affinités par rapport à la partition. Et à partir de là, on a construit l'ensemble du spectacle. Et l'acteur a travaillé aussi seul avec la partition. Puis on s'est retrouvés pendant 4 semaines sur un site qu'on a élaboré ensemble. Lequel site était strictement lié à une nécessité interne pour raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il fallait un écran. Donc j'ai choisi la plus grande dimension possible dans le site qui nous était offert. Puis... pour raconter l'histoire de l'homme qui se lève, il fallait donc un lit. Je lui ai donc construit un lit avec des cartons que je suis allée chercher dans la poubelle du théâtre. Et pour l'espace sonore, on a pris le minimum qu'il y avait à disposition.
Vous voulez dire techniquement?
D'un point de vue extrêmement concret et technique.
Et vous êtes allé chercher, donc vous dites, vous êtes allé chercher les cartons dans la poubelle. C'est important pour vous, cette idée comme ça de recyclage?
C'est-à-dire que il y a des idées dont on se débarrasse très vite. Et aujourd'hui, bien des idées importantes et constituantes de notre culture contemporaine ont été évacuées. Et c'est le même geste que d'aller récupérer une lettre de Antonio Negri envoyée à son enfant. Qui n'est pas d'une grande valeur par rapport à ses écrits.
Antonio Negri ?
Antonio Gramsci. Qui n'est pas d'une grande valeur par rapport à ses écrits théoriques. Et il me semble qu'à l'intérieur de cette lettre récupérée, qu'on décachette chaque soir devant les autres, qu'on donne à entendre, il y avait l'ensemble de son œuvre qui était au travail, mais sur un mode mineur. Et que ce soit sur un mode mineur, ça me paraissait intéressant. Donc l'idée de récupérer ce qu'on considère en général comme étant une chute, bon à être jeté ou inintéressant, paraissait important de le mettre à l'avant-plan et sur scène, et de le donner à voir et à entendre. Alors bien entendu, dans l'écriture de Pasolini, il y a un travail formel qui est extrêmement complexe, et il ne s'agit pas du tout d'une écriture mineure, mais il est vrai que dans le premier poème, Les cendres de Gramsci, sa langue se remet en mouvement grâce à des bruits qui sont jugés mineurs et inintéressants et non poétiques dans la langue en général. Il s'agit des bruits du Testaccio, ce quartier populaire qui est à côté du cimetière et qui vont lui permettre de se remettre en mouvement. Et de même que nous, chacun des éléments jugés mineurs ou accessoires ou inutiles ou dont on se débarrasse en général, nous ont permis de construire notre objet. Ça a été pareil pour Pasolini. Je pense que notre hypothèse de travail était que le fait qu'il se rende au cimetière des étrangers pour rendre hommage à Shelley, qui est un poète romantique, lui a permis de rencontrer le bruit de l'enclume partisane qui vont remettre en mouvement sa langue. Et c'est sur un mode c'est exactement à cet endroit-là que le spectacle travaille.
Oui, mais c'est exactement à ce moment-là que le spectacle se lève, j'ai envie de dire. Enfin, c'est oui, effectivement, c'est quand c'est avec oui, le texte de Pasolini, Les Cendres de Gramsci, que l'acteur, littéralement, commence à arpenter l'espace. Oui. Oui.
C'est comme s'il refaisait le trajet pour aller au cimetière des étrangers et rendre hommage à des valeurs passées, romantiques, majeures, pétrifiées dans le marbre. Ça va lui permettre en fait de fracasser le marbre et d'être à nouveau en mouvement avec des choses extrêmement probablement sales ou
animales
ou enfin qui ne sont pas en principe qu'on ne montre pas, qui ne sont pas acceptables. Qui vont lui permettre, cette rupture-là va lui permettre de à nouveau se tenir debout devant les autres.
Et au faire.
Absolument au faire et en mouvement, et absolument vivant, grâce à ça. Grâce à ça. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on voit travailler le musicien en direct, qui travaille sur la partition, qui interprète sa partition chaque soir, ainsi que le vidéaste interprète sa partition chaque soir. C'est du même ordre.
Vous voulez dire qu'il soit mis dans le même danger ?
Danger, mais le même risque, le même mouvement qui fait que la structure, à la fois de la partition musicale, de la partition des images, est extrêmement tendue et tenue. Mais à l'intérieur de ça, il y a la possibilité de travailler sur la masse, ce qui est visible et non visible, sur le rythme, sur l'intensité sonore. Et ça se fait en direct chaque soir.
C'est une espèce de conversation qui se crée entre eux.
Alors, oui, alors, donc on m'a dit qu'au théâtre il fallait un dialogue, et là le dialogue a lieu entre trois espaces, l'espace sonore, la présence de l'image et la présence de l'acteur et du texte, tisse un dialogue qui est parfois harmonieux, mais parfois extrêmement tendu et disharmonique.
Mais trois espaces, mais même trois individus, parce qu'on voit l'acteur venir saluer concrètement
en présence,
ses camarades de jeu.
Oui, oui, ils le font ensemble.
Mais ça, c'est mis en scène, c'est donné à voir.
C'est donné à voir, tout est donné à voir. Même la source lumineuse, ça me paraissait extrêmement important qu'il n'y ait pas de lumière de théâtre qui soit cachée. La seule lumière qui se révèle, ou qui révèle l'acteur, ou qui révèle l'action tout au long de la représentation, est la lumière que porte avec lui le protagoniste, celui qui accomplit les gestes nécessaires à la Renaissance. Et c'est une petite lumière qu'il a avec lui, sinon il y a la lumière de la projection.
L'homme porte sa lumière avec lui.
Il porte sa propre lumière, c'est absolument nécessaire. Elle est toute petite, mais elle grandit au cours de la représentation.
C'est l'histoire d'un homme qui se lève.
L'histoire d'un homme qui se lève et qui porte sa lumière, même s'il est infime, il l'a avec lui. Il a la possibilité ensuite d'éclairer l'ensemble de la communauté grâce à cette petite lumière. Singulière. Dérisoire, absolument dérisoire.
Donc, tout à l'heure, vous nous parliez de la partition. Vous l'avez construite comment, cette partition, de façon
à la fois intellectuelle, parce qu'il y avait évidemment le souci de traverser le siècle ou d'être traversé par le siècle. Et donc, de manière extrêmement concrète, comment on fait avec une chronologie? Qu'est-ce qu'on évoque des années 30? Qu'est-ce qu'on évoque des années 50? Qu'est-ce qu'on évoque d'aujourd'hui? Donc c'est extrêmement basique, absolument pas voilà, concret. Et donc pour évoquer les années 30, on est allé chercher Gramsci, mais à un endroit où il n'est pas légitime et officiel, mais dans sa correspondance intime, des lettres qu'il adresse à ses enfants. Ensuite, pour Pasolini, puisque bien des textes de théâtre sont connus et tous les autres aussi, on a choisi un endroit de Fracture, qui sont les poèmes de jeunesse où il négocie avec un passé qui est compliqué de références culturelles romantiques, d'une part, donc Chénet, et d'autre part, archaïque, avec la langue maternelle, qui est celle du Frioul, qui vont lui permettre un affranchissement et d'inventer sa propre langue en tant que poète. Et chez Antonio Negri, c'est un endroit de fracture permanent, puisque c'est quelqu'un qui a élaboré une œuvre philosophique remarquable, ici connue en référence à Deleuze, entre autres, et qui, par ailleurs, a vécu longtemps en prison sur un malheureux malentendu. Mais c'est l'endroit précis, il nous semblait important d'évoquer ces trois auteurs à l'endroit précis de fracture ou de grande fragilité, parce que c'est l'endroit qui a permis une renaissance en fait, dans chacun de leurs travaux. Et pour retracer l'évolution de l'idée, on a réalisé en travaillant ces trois auteurs dans cette perspective historique primitive que Gramsci était encore un martyr, Pasolini est devenu un martyr, mais il a eu le temps d'élaborer son propre lyrisme à travers la figure des Misérables. Et en dernier lieu, Antonio Negri, qui devient, presque malgré lui, mais à l'endroit de plus grande douleur, celui qui est le plus grand porteur d'espoir, finalement, aujourd'hui et pour l'avenir, et d'un point de vue international.
Donc trois intellectuels, mais trois militants aussi, qui ont payé de leur corps, on peut dire, pour le meilleur et pour le pire. Et trois utopistes. Le plateau de théâtre, c'est une tribune, c'est un lieu d'utopie, c'est tout ça à la fois.
Je trouve que c'est un haut lieu de révélation, parce que c'était extrêmement important pour moi de mettre à l'épreuve du théâtre cette langue-là, cette fracture et cette difficulté à s'affranchir. Et je pense que c'est qu'à l'épreuve du théâtre que ces textes se révèlent. C'est-à-dire que seul, dans sa chambre, on peut les lire. Mais de les donner à voir et à entendre devant les autres, c'est la seule révélation possible. Il ne s'agit pas d'une tribune, mais je pense que le lieu du théâtre est le lieu de la communauté, par excellence, qui réunit des singularités, et la révélation ne peut avoir lieu que devant ces singularités.
Mais tous les textes, vous avez la sensation que ces textes-là appellent le corps, appellent la voix, enfin, comme dit Deleuze, demandent à être vocalisés.
Oui, alors, oui, absolument.
Vous le proposez sur des modes très différents, parce que le parcours de Carlo Brandt, l'acteur, est vraiment évolutif au cours du spectacle. Enfin, on voit d'une chose très intime.
Oui, il y a l'idée de l'épreuve aussi. Enfin, l'idée de l'épreuve dans le sens d'éprouver concrètement qu'est-ce qui fait que une lettre aussi intime.
Une lettre aussi intime.
Oui, révélée devant les autres, il y a un drôle de geste que de donner à entendre à un ensemble de personnes anonymes une lettre qui est adressée à une personne. Donc la révélation de l'intimité paraissait très important, parce que c'est lié aussi à un défaut culturel. Il ne s'agit pas de faire objet de culture, mais de donner à entendre une chose extrêmement intime et singulière. Et c'est dans le singulier que se trouve la liberté.
Et c'est pour ça qu'en même temps, on ne peut pas le faire n'importe comment, qu'il est dans cette espèce de grande intimité à lui-même.
Absolument.
De quasi-recueillement.
Absolument.
Qui va durer.
J'aime beaucoup le terme recueillement, même s'il n'y a aucun... Il ne s'agit pas d'un mausolée, au contraire. Mais je pense qu'il faut une... pour inviter à l'écoute, c'était une manière d'ouvrir le spectacle aussi. Il faut se recueillir soi-même, c'est-à-dire être extrêmement concerné par soi-même pour pouvoir être ouvert et entendre une chose inouïe.
Je crois savoir que depuis le début du projet, vous êtes rentré donc forcément en contact avec Antonio Negri.
Oui. En fait, il n'a pas pu voir la mise en scène à Vigny-Lausanne, puisqu'il était encore Et il est encore en résidence à Rome.
Résidence surveillée.
Résidence surveillée, où il est obligé de rentrer chez lui tous les soirs à 22h. En revanche, on a un échange épistolaire depuis le printemps 2001. Et la dernière lettre que j'ai reçue date du 21 novembre. Je vais vous en lire un extrait, peut-être. Où il est question du Forum de Florence. Il dit que le Forum de Florence, et surtout la manifestation qu'il a conclue, a représenté un moment extrêmement haut dans la réorganisation des esprits contre la guerre et pour un nouveau monde possible. Je suis avec un pied dedans et un pied dehors, toutes les affaires du mouvement. Comme tu auras entendu, magistrature, gouvernement et police sont en train d'essayer des provocations pour mettre fin à cette nouvelle aventure italienne et révolutionnaire. J'espère que les désastres des années 70 ne se répéteront pas. Le mouvement est très fort et réussira, je le souhaite, à repousser la tentation de répondre à la violence par la violence. Voici un thème de tragédie postmoderne, celui d'un homme qui cherche un chemin de résistance qui ne soit pas la guerre. Je crois vraiment que sur ce thème, on peut construire un grand théâtre. Un théâtre de l'indignation et de l'espoir.
C'est votre théâtre, le théâtre de l'indignation et de l'espoir.
C'est ce que je souhaiterais faire.
Merci beaucoup.